France Inter. Laetitia Gaillet. Le 6-9.
Bonjour Pascal Perrineau.
Bonjour.
Pascal Perrineau, politologue, professeur émérite des universités à Sciences Po. Vous avez co-dirigé en juillet une étude avec la Fondation pour l'innovation politique sur les primaires et les systèmes de départage des candidats à l'élection présidentielle. Alors, les écologistes ont donné le coup d'envoi de la rentrée politique cette semaine avec leur journée d'été à Poitiers. Les primaires, on y est. À 8 mois de l'élection présidentielle, Europe Écologie Les Verts ont lancé la leur, ou les leurs. Le PS a lancé la primaire des idées début de l'année. Les Républicains espèrent beaucoup l'éviter, mais parlent de primaire des projets. On va y revenir avec vous, puisque vous allez superviser une consultation auprès des sympathisants des Républicains. Mais Pascal Perrineau, au regard de ce qu'on a connu, Ségolène Royal en 2007, qui a mené une campagne avec un PS divisé, François Fillon, dont on connaît le destin en 2017, Emmanuel Macron, qui n'est passé par aucun parti, est-ce que aujourd'hui les primaires sont vraiment utiles ?
Écoutez, tant que les partis n'auront pas la capacité à sécréter en leur sein ce qu'on appelle des candidats naturels, des candidats qui s'imposent, comme jadis le général de Gaulle, le président Pompidou, François Mitterrand pour la gauche, Jacques Chirac encore pour la droite, au début des années 2000, eh bien, il faudra bien avoir recours à un autre système. Le système le plus ouvert, le plus démocratique, c'est le système de la primaire que nos amis américains connaissent bien et qui a été utilisé d'abord par la gauche à la fin des années 90 et maintenant par la droite. C'est inscrit dans le statut d'ailleurs de ces partis, que ce soit le Parti Socialiste ou les Républicains. Ils ont inscrit dans leur statut le recours aux primaires pour choisir leur candidat ou leur candidate à l'élection présidentielle. Vous savez, les primaires sont apparus dans le paysage politique français parce que les partis sont en crise. Les partis n'ont pas beaucoup d'adhérents, les partis n'ont plus beaucoup de légitimité parfois pour choisir en leur sein un candidat qui, en plus de ça, ne s'impose pas de manière évidente. Donc à ce moment-là, l'idée est de consulter les électeurs, les sympathisants.
Et en même temps, Pascal Perrineau, vous le dites dans votre étude, on est arrivé à un point crucial sur le dossier des primaires, soit on arrête, soit on continue. Donc c'est un peu le paradoxe.
Oui, on est, je crois, à la croisée des chemins. Ou bien la primaire s'impose, elle s'impose à droite, à gauche et ailleurs, regardez les Verts aujourd'hui, ou bien on revient en arrière, en faisant d'ailleurs assez souvent un mauvais procès aux primaires. Par exemple, c'est le cas pour la droite et le centre. Certains sont persuadés
que c'est une machine à perdre.
Que l'échec de François Fillon est lié aux primaires. L'échec de François Fillon n'est pas du tout lié au choix de la primaire. Il est lié aux affaires qui ont touché le candidat de la droite et du centre dans la campagne de 2017. Donc, il y a un procès qui est fait à cette procédure, mais vous voyez tout de même que peu à peu, au fur et à mesure où l'échéance de 2022 approche, les différentes forces politiques cherchent à retourner à ce système de départage, comme dit le président du Sénat, Gérard Larcher, sachant que si ça n'est pas cela, c'est un choix qui est fait par les professionnels. C'est-à-dire, on peut imaginer un autre choix, en effet. Les dirigeants des partis se mettent d'accord entre eux pour choisir un candidat.
Risque qu'un autre candidat fasse campagne seul.
Voilà. Et à ce moment-là, les camps sont divisés. Le candidat n'a pas de légitimité et c'est la meilleure solution pour l'échec.
Qu'est-ce qu'apporte une primaire à un parti ?
Alors, une primaire, ça lui permet à ce parti qui n'a pas de candidat qui s'impose, ça lui permet de choisir celui qui a le plus le soutien des sympathisants, c'est-à-dire des électeurs
potentiels. Est-ce que ça le rend plus fort ou en fait c'est on pallie à une faiblesse récurrente ?
Les deux, je vais vous dire. On pallie à la faiblesse qui est celle que les partis n'ont plus d'hommes ou de femmes qui s'imposent, mais aussi cela peut contribuer à une légitimation. Souvenons-nous tout de même de François Hollande en 2012.
Enfin, c'est le seul qui a gagné une primaire et qui est devenu président.
Voilà. Ça avait été pour lui tout de même un processus. Souvenons-nous, il y avait l'affaire Strauss-Kahn, le Parti Socialiste n'avait plus aucun leader qui s'imposait et la primaire avait, légitimé, créé une dynamique qui est devenue une dynamique irrésistible pour François Hollande. François Fillon, jusqu'à ses affaires, fait la course en tête en 2016-2017.
Mais est-ce que la primaire, c'est pas aussi quelque chose qui est dans l'air du temps, c'est-à-dire donner plus de démocratie aux citoyens?
Bien sûr. Si vous voulez, il faut regarder ce mécanisme des primaires comme étant un mécanisme où les Français, comme bien d'autres citoyens en Europe, demandent plus de démocratie, veulent dire leur mot. Sans forcément avoir la carte d'un parti. Ils veulent participer au choix démocratique du candidat dans leur famille, pour la présidentielle, pour des régionales, pour dans les systèmes parlementaires, pour les élections législatives. C'est à comprendre comme étant aussi une demande de démocratie non pas directe, mais de démocratie consultative. Et c'est de plus en plus présent dans toutes les démocraties du monde.
Le modèle, c'est le modèle états-unien.
On peut s'inspirer du modèle états-unien, sachant que, vous savez, c'est difficile de parler du modèle états-unien parce que d'un État à l'autre, les primaires sont assez différentes. Il y a des primaires fermées, des primaires semi-ouvertes, ce qu'on appelle le système du caucus, des primaires ouvertes. Donc, d'un État à l'autre, dans cet État fédéral que sont les États-Unis, les primaires sont différentes. Et d'autre part, c'est ce qu'on dit avec Laurence Morel dans l'étude que vous citez à la Fondapol, les primaires peuvent être extrêmement différentes quant à leur organisation technique. En France, on est allé vers des primaires à deux tours parce qu'on a copié le mécanisme de l'élection présidentielle. Mais on peut imaginer très bien des primaires à un tour qui seraient des primaires un peu moins clivantes parce qu'il n'y aurait pas le deuxième tour où deux candidats, deux personnalités s'affrontent et on sait que ça laisse souvent des traces.
Ça laisse souvent des traces. Un mot sur les écologistes. Leur primaire à eux est lancée. Jusqu'à présent, les primaires écologistes n'ont pas été de vrais grands succès. Alors, si on remonte l'histoire, Alain Lipietz débarqué en 2001 au profit de Noël Mamère, 2012 Eva Joly et le score que l'on connaît. Vous voulez regarder comment on les sent au début de l'été, en tout cas en cours de rentrée politique, on les sent un peu plus apaisés. Comment vous la regardez aujourd'hui?
Oui, peu à peu, la culture des primaires s'installe dans cette famille écologiste, dans laquelle on ne peut pas imaginer d'autres systèmes. Les écologistes sont très demandeurs de démocratie horizontale, de démocratie plus ou moins directe, et le mécanisme des primaires est assez bien adapté à leur culture. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'affrontements et d'affrontements d'égo au vert, dans le passé comme aujourd'hui. Et c'est vrai que là, c'est une des limites des primaires. Les affrontements d'égo dans les primaires, trouvent toute leur place. Surtout quand il n'y a pas de règles pour, j'allais dire, calmer, encadrer l'expression de ces égos. Mais je crois que le problème des verts est un problème plus large. Les verts ne sont pas à l'aise, les écologistes ne sont pas à l'aise avec l'institution présidentielle. Et donc, avec l'élection présidentielle. Quand vous regardez l'histoire électorale des Verts, les Verts font de très bons scores dans des élections locales, ils font de très mauvais scores à l'élection présidentielle parce que c'est pas dans leur culture.
On va passer aux Républicains, Pascal Perrineau. Vous allez superviser l'étude commandée par les Républicains à l'IFOP. 15 000 sympathisants LR vont être sondés au sujet de l'opportunité d'une primaire pour désigner son candidat et les qualités nécessaires pour mener la bataille des présidentielles. Alors, le lancement de cette étude a été annoncé, mais quand est-ce qu'elle est vraiment lancée?
Oui, elle sera lancée, cette étude, à la fin du mois d'août. Si vous voulez, puisqu'il y aura un congrès qui est prévu pour le parti LR le 16 septembre. Et en fonction du choix de la procédure de départage qui sera fait, il y aura peut-être besoin de changer les statuts qui organisent les primaires, du moins chez les Républicains. Mais il faut rectifier, ce sondage ne sera pas une consultation des sympathisants LR, mais des sympathisants de la droite et du centre, c'est-à-dire les gens. C'est très simple.
Qui?
Voilà. Les gens qui se sentent proches de LR, de l'UDI, du Nouveau Centre, de Libre, le mouvement de Valérie Pécresse. Ça, c'est un premier critère. Le deuxième critère, c'est les gens qui ont déjà voté depuis dans les dernières années, par exemple aux européennes, aux régionales, pour des listes de la droite et du centre. Et puis des gens qui se sentent de droite ou du centre lorsqu'on leur pose la question, est-ce que vous vous sentez plutôt de gauche, plutôt de droite, plutôt du centre?
Mais est-ce que ça veut dire qu'à l'issue de son sondage, dont on aura le résultat a priori si je vous suis bien au Congrès, est-ce qu'à l'issue de ce sondage, les Républicains pourront dire on a un candidat où on va être obligé de passer par la primaire?
Le sondage n'est pas du tout un instrument de décision. C'est un instrument d'aide à la décision. Parce que vous voyez, le problème, c'est que, ou bien vous confiez la décision, j'allais dire, à des professionnels de la politique, les élus, les adhérents, les chefs des partis. Ou bien vous décidez une procédure plus large. Vous voulez savoir ce que, au fond, le peuple de droite et du centre pense. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire à ce moment-là, en effet, un sondage, et un sondage, j'allais dire, lourd, 15 000, vous voyez, c'est exceptionnel, puisque d'habitude, on consulte plutôt un échantillon de 800 à 1 000 Français. Mais sur 800 à 1 000 Français, vous n'auriez pas beaucoup de sympathisants de la droite et du centre. Donc là, on aura 15 000 personnes proches de la droite et du centre, et on pourra savoir quelles sont leurs attentes en termes de système de départage, quels sont pour eux les enjeux importants, quels sont pour eux les traits d'image qu'ils ont des différents candidats déjà déclarés ou des candidats potentiels, et on sera, du moins pour les dirigeants de LR, du Nouveau Centre, de l'UDI et les congressistes des Républicains, ils seront un peu moins, j'allais dire, dans le flou. Ils sauront ce que leur base électorale pense à quelques encablures de l'échéance de 2022.
Mais quelque part, ils vont y aller. Ça semble inévitable chez les Républicains, vu le contexte. Xavier Bertrand ne veut pas de primaire, Valérie Pécresse dit oui, Bruno Retailleau dit « j'y vais s'il y a une primaire ». Donc voilà, on y va malgré tout, ils n'en veulent pas, mais on y va.
Oui, sauf surprise, en effet, il faudra bien arriver à un système de départage de primaire qui soit peut-être, j'allais dire, plus inclusif que la dernière fois. C'est-à-dire... En 2016, en effet, il y avait des primaires qui étaient des primaires qui ont clivé. On l'a vu entre François Fillon et Alain Juppé. Et quand François Fillon a eu des problèmes, ça a été impossible de trouver une relève à François Fillon. Là, on peut imaginer un système de primaires qui soit un système de primaires plus inclusif, qui ne soit pas forcément une primaire à deux tours, qui soit une primaire qui ait un aspect un peu plus doux, j'allais dire, un peu plus subtil, un peu plus inclusif.
On va faire un tour du côté du Standard avec Denis qui est à Montignac. Bonjour Denis.
Bonjour.
Posez votre question, Pascal Perrineau vous écoute.
Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est une remarque. Je dirais que ce système des primaires, que ce soit la position sur les sujets politiques, j'appellerais ça plutôt le bal des médiocres. Parce que il y a trop de gens qui se croient un destin national, donc évidemment ils sont lucides, ils savent qu'ils manquent de légitimité et ils vont chercher cette légitimité dans les primaires.
Pascal Perrineau, le bal des médiocres, facteur de division.
La remarque est sévère. Bal des médiocres, il peut y avoir, en effet, ce que cet auditeur appelle des médiocres parmi les candidats, en effet, à une élection primaire. Moi, je ne sais pas très bien quels sont les critères de la
médiocrité
de l'excellence.
Mais est-ce que ça polarise pas, en fait, la primaire? Est-ce que ça ne polarise pas des débats à l'intérieur des partis? Et du coup, on entretient le flou et on n'y voit pas clair, quoi.
Écoutez, on peut pas, si vous voulez, il y a des demandes contradictoires un peu dans l'électorat. On ne peut pas, vous savez, il y a une critique qui est très souvent faite, à juste titre, qui consiste à dénoncer l'opacité du monde politique, ces dirigeants de partis qui se réunissent entre eux et qui décident pour les autres. Et on dit, voilà, la vie politique a besoin et la vie partisane a besoin de démocratie. La primaire est tout de même un instrument de consultation plus large que les quelques dizaines de milliers de militants qui adhèrent au Nouveau Centre, à l'UDI, à LR. Hein, donc, on ne va pas reprocher à ce système de permettre à certains dont on estime qu'ils ne sont pas tout à fait au niveau de la fonction à laquelle ils aspirent, de pouvoir se présenter. Et ensuite, de toute façon, ce sont les électeurs qui se sentent proches de la droite et du centre, du moins pour cette affaire autour de LR, qui décideront.
On va interroger Marie-Hélène. Marie-Hélène qui est à Lyon, bonjour.
Bonjour.
Allez-y.
Je voudrais savoir, est-ce que le fait de parler des élections comme ça longtemps à l'avance, est-ce que c'est pas un sujet qui lasse les électeurs eux-mêmes et qui serait une raison pour laquelle les électeurs ne votent pas ? Et j'ajoute, on dit pas lier quelque chose et pas lier à quelque chose.
C'est moi, ça, c'est pour moi. Je vous remercie, Marie-Hélène, Pascal Pirino.
Oui. Écoutez, j'entends bien, surtout que les Français, aujourd'hui, ont la tête un peu à autre chose. En effet, la prolongation de l'épidémie de la Covid-19 fait que les Français sont un peu dérangés par ce lancement, au fond, de la pré-présidentielle. Mais quand vous regardez toutes les élections présidentielles sous la Ve République, faut se rappeler que l'élection présidentielle aura lieu fin avril, à cette époque, la pré-présidentielle, si on peut dire, est lancée, toujours, hein, quelle que soit l'élection présidentielle au suffrage universel depuis 1965. Et il faut choisir les candidats au plus tard, en novembre, hein, quand vous regardez, pour la droite et le centre, François Fillon avait été choisi en novembre 2016, Nicolas Sarkozy en novembre 2002, j'allais dire à gauche, c'est pareil. Donc, il faut un peu de temps, la démocratie demande un peu de temps, mais j'entends bien ce que dit cette auditrice. Cette élection présidentielle, vous savez, est une élection à part, parce que c'est une élection qui va se faire dans le cadre de la prolongation de l'épidémie de la Covid, et ça, c'est une dimension tout à fait nouvelle.
Pascal Pirino, pourquoi la gauche, je parle du PS, d'Europe Écologie Les Verts, alors le PS, on ne sait pas s'il y aura une primaire, mais pourquoi la gauche a plus d'affinité avec la primaire que la droite ?
Écoutez, quand vous regardez l'histoire, ça n'est pas tout à fait exact. Vous savez, quand vous regardez par qui l'idée de la primaire est venue, c'est venu par Charles Pasqua, qui n'était pas un homme de gauche, en 1994, et qui avait déposé une proposition de loi sur le sujet de la primaire. Pourquoi ? Parce que la droite était très habituée à ces divisions, qui étaient des divisions parfois redoutables, souvenons-nous, entre Édouard Balladur et Jacques Chirac. Mais c'est vrai qu'ensuite, c'est la gauche qui passe à l'acte. D'abord dans une primaire fermée, avec le choix de Lionel Jospin en 1995, puis ensuite dans une primaire davantage ouverte pour Ségolène Royal, puis pour François Hollande. Donc au fond, si vous voulez, cette idée de la primaire est portée par les anciens grands partis de la bipolarité gauche-droite. Et ils y sont venus, pourquoi ? Parce que tant qu'il y avait, j'allais dire, un Jacques Chirac ou un Georges Pompidou qui s'imposait, il n'y avait pas de problème. Tant qu'il y avait un François Mitterrand qui s'imposait à gauche, il n'y avait pas de problème. Et d'ailleurs, le Parti Socialiste la primaire dans ses textes depuis le début des années 70, mais ne la pratiquait pas, parce qu'il y avait un chef naturel,
parce qu'il y avait François Mitterrand. Ce qu'on peut parler d'un tribun, en fait, quelqu'un qui en parle.
Oui, d'un tribun, et puis d'un homme qui... Il y avait des problèmes, souvenons-nous, avant 1981, Michel Rocard tente de s'imposer, mais il se retirera dès que François Mitterrand dit « voilà, je serai candidat ». On n'est plus dans cette période où il y avait des chefs naturels qui s'imposaient. Les électeurs demandent davantage de consultations démocratiques. Les électeurs aussi sont plus exigeants, plus changeants. Et il n'y a plus de reconnaissance de ces autorités naturelles qui venaient du haut.
Bruno est à Roanne. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Posez votre question, Pascal Pirino vous écoute.
Oui, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à tous les auditeurs. Je m'interroge sur le choix du mode de scrutin. On présente le mode de scrutin majoritaire qu'on utilise pour la présidentielle et pour les primaires, comme l'alpha et l'oméga de la démocratie, alors que il a pour but d'exacerber les différences, de faire monter les antagonismes. Il y en a d'autres qui sont pourtant bien documentés, qui sont accessibles techniquement maintenant avec l'informatique, et on n'en parle jamais, ou très peu, je pense, et qui sont pourtant plus doux, pour reprendre les mots de votre invité, qui construisent du consensus, qui changent vraiment la manière de faire de la politique, avec beaucoup moins d'effets pervers. Je pense au jugement majoritaire, au vote par point ou au vote préférentiel. On va savoir l'opinion de votre invité à ce sujet.
Tout à fait. C'est extrêmement intéressant parce que, en effet, nous ne sommes pas condamnés pour les primaires à un mode de scrutin majoritaire. Quand vous regardez ce qui se passe dans le monde, dans d'autres pays européens, il y a très souvent le recours à des modes de scrutin, plus doux, plus consensuels. C'est ça le mot, hein, des modes de scrutin qui créent davantage le consensus. Et votre invité est très pertinent quand il dit, voilà, c'est beaucoup plus consensuel. consensuel, on construit du consensus. Et il cite plusieurs possibilités, le jugement majoritaire, le vote préférentiel, où vous demandez, vous voyez, aux électeurs de se prononcer. Par, imaginons qu'il y ait 5 candidats dans cette primaire de la droite et du centre, on demanderait à chaque électeur de classer un ordre de préférence de 1 à 5 les candidats. Et tant qu'aucun candidat n'a 50%, ben voilà, il n'y a pas de choix, et donc on retire le dernier, on affecte ces seconds choix aux autres candidats qui restent en liste, les 4, et puis on va jusqu'au moment où on va arriver à un candidat qui ou une candidate qui obtient 50%. Vous voyez, c'est des procédures beaucoup plus douces, à la limite peut-être moins brutales, plus intelligentes.
Il n'y a pas autre chose pour désigner un candidat qu'une primaire ?
Oh si. Si, si, il y a l'autoproclamation, vous savez, ça se fait beaucoup.
Hein, voilà. Mais pour un parti, dans la démarche.
Dans un parti, il y a ou bien les dirigeants qui peuvent choisir dans un bureau politique, ou bien dans un congrès, les militants ou les représentants des militants, ou bien dans une primaire fermée, c'était le cas par exemple du Parti Socialiste en 94-95, où s'étaient affrontés Henri Emmanuelli et Lionel Jospin, et là c'était les adhérents, ceux qui avaient la carte du parti, qui avaient choisi.
Donc vaut mieux une primaire ouverte ou fermée? C'est-à-dire ouverte aux adhérents qu'aux adhérents, enfin fermée qu'aux adhérents ou élargie.
Écoutez,
quel est le plus gros impact
dans la situation actuelle? Il vaut mieux une primaire ouverte. Pourquoi? Parce que les adhérents des partis ne sont pas assez nombreux. Vous auriez des partis dans lesquels il y a des centaines de milliers d'adhérents. On pourrait se dire, voilà, ils sont bien représentatifs des gens qu'ils prétendent représenter, c'est-à-dire les électeurs. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Le Nouveau Centre, l'UDI, c'est quelques milliers d'adhérents. LR annonçait, je crois, 65 000 adhérents. Vous voyez, par rapport aux millions d'électeurs qui ensuite vont exprimer un choix en faveur éventuellement de la droite et du centre, ça n'est pas grand-chose. Or, souvenons-nous que ces électeurs, ils existent. Regardez les succès de la droite et du centre aux dernières élections régionales.
Très rapidement, on va prendre François qui est au Standard et qui est à Hendaye. Bonjour François.
Oui, bonjour à tous. Ma question sur la primaire verte, on entend deux infos. Un, très très peu d'inscrits, et deux, le vote sur Internet. Ce qui veut dire que si on n'a pas Internet, on ne peut pas voter. N'est-ce pas antidémocratique et surtout contraire à ce que tout parti qui devrait réduire les inégalités?
Alors en effet, très peu d'inscrits, c'est un véritable risque parce que l'intérêt de la primaire, comme on vient de le dire, c'est de consulter, j'allais dire largement, et bien au-delà des seuls encartés, comme on dit, c'est-à-dire des seuls citoyens engagés qui ont la carte d'un parti. D'après ce que l'on sait, en effet, pour l'instant, il y a peu d'inscrits, c'est-à-dire que si la population des gens consultés se rapproche de la population de ceux qui ont la carte du parti, quelque part, l'esprit même de la primaire se perd.
Il y a vraiment, en plus chez les Verts, il y a moins de 15 000 inscrits, donc on est vraiment sur un petit socle.
Sur un petit socle, et c'est un des problèmes de la primaire des Verts, parce que, si vous voulez, il y a beaucoup plus les électeurs qui ont pu choisir, par exemple, aux dernières municipales des listes vertes, ou aux dernières régionales des listes vertes, les électeurs sont beaucoup plus nombreux. Et donc, ils n'ont pas trouvé encore le système et le mode d'organisation qui permettent, j'allais dire, de toucher une cible beaucoup plus, tout simplement, beaucoup plus représentative de ce que sont réellement les électeurs verts dans la société française d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Pascal Perrineau, politologue, d'avoir été l'invité ce matin du Grand Entretien sur France Inter. À suivre dans le dernier quart d'heure la revue de presse de Jean-Philippe Ballas. Thomas Chauvineau viendra nous parler du débat de midi et puis André Manoukian, on ira sur les routes de la musique.